en souvenez peut-être, le cinéaste Jean-Luc Godard avait l'habitude de dire que l'objectivité à la télévision, c'était 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Je précise qu'il s'agissait là d'une critique, d'une remarque ironique pour moquer la propension des grands médias à mettre la balle au centre, y compris dans les matchs les plus déséquilibrés. Si je précise que la phrase de Godard est une critique, c'est que la RATP ne l'a peut-être pas compris ainsi. Les responsables de la RATP ont peut-être vraiment cru que leur rôle de service public consistait à donner objectivement 5 minutes à Daesh, 5 minutes aux chrétiens d'Orient. Je m'explique. La filiale de publicité de la RATP a refusé la mention « pour les chrétiens d'Orient » sur une affiche de concert. Au nom, je cite le communiqué de la RATP, du principe de neutralité de l'espace public, il n'est donc pas possible de mener une opération caritative, en l'occurrence un concert en faveur d'une minorité menacée, les chrétiens d'Orient. Voici donc renvoyé dos à dos Daesh et les chrétiens d'Orient, sauf que 50% de ses protagonistes ont le dos au poteau d'exécution. Une décision qui s'explique au mieux par la bêtise, au pire, je préfère pas imaginer. Invoquer le principe de neutralité ou de laïcité pour ne pas venir en aide aux chrétiens d'Orient, c'est faire rimer laïcité avec lâcheté, en réactualisant une vieille maxime en matière de vie quotidienne, c'est métro, boulot, dodo, en matière de vie politique, ce sera métro, dodo.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Faut-il mettre en boîte la conserve ? Pour en parler, je suis en compagnie d'Olivier Drolette. Bonjour, vous êtes délégué général du Syndicat national des fabricants de boîtes métalliques. À côté de vous se trouve Jean-Pierre Williot. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université François Rabelais de Tours. Vous êtes penché sur les différentes manières de conserver les aliments, car c'est un véritable pan de l'existence humaine qui est derrière ces procédés, le salage, le fumage, et évidemment le fait de mettre les aliments en conserve. Et puis enfin, Julien Coillier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de la collective de la conserve. Julien Coillier, faut-il manger des conserves ? Est-ce raisonnable de continuer à se nourrir avec des aliments conservés de la sorte ?
Aujourd'hui, cette question est intéressante du point de vue des aliments. Les Français, même s'ils ont l'impression de ne pas manger souvent de conserves, plus de 99% d'entre eux consomment des conserves. Alors, ils n'ont peut-être pas l'impression, quand c'est des sardines, que c'est en conserve, ou certains aliments, ils n'ont pas l'impression que c'est en conserve. Mais aujourd'hui, que vous ayez donc du poisson, de la viande, des légumes, des plats cuisinés, des fruits, tous ces aliments sont en conserve. Et aujourd'hui, donc oui, il faut continuer à manger des aliments en conserve, parce qu'elle répond à un certain nombre de questions, certains enjeux de société quand on parle de développement durable, quand on parle d'alimentation durable. Par exemple, le contenant, la boîte, elle est très facile à recycler. Donc, c'est un matériel en acier ou en aluminium et vous pouvez la recycler à l'infini. Donc, cette caractéristique de la conserve en fait un produit intéressant de ce point de vue.
Ou aussi en verre d'ailleurs, puisqu'on va parler également des autres contenants qui permettent donc de conserver des aliments. La conserve a une histoire, elle est née à la fin du 18e siècle. C'est une invention française, celle d'un certain Nicolas Appert. Jean-Pierre Williot, rappelez-nous dans quelles conditions la conserve a été inventée.
Alors, l'invention de Nicolas Appert est une vraie césure dans l'histoire du conditionnement et de la conservation des aliments. Appert était confiseur à Paris en 1784 et il a ouvert un atelier pour faire de la conserve en 1795 à Ivry. Donc, on pourrait prendre ces dates-là comme étant des points tournants de l'histoire de la conserve. Il faut en réalité le replacer dans un processus de très longue durée. Parce qu'avant l'invention d'Appert, qui consiste à stériliser un bocal ou une boîte à l'intérieur de laquelle sont les aliments et que l'on chauffe, la boîte étant fermée, ce qui permet donc d'arriver au stade de la conserve.
Voilà, c'est ça le principe de la conserve, c'est le fait de faire chauffer dans un autoclave, grosse cocotte minute, une boîte dans laquelle on a les aliments, ce qui explique qu'en fait tous les aliments, y compris les aliments crus contenus dans une conserve, sont cuits.
Voilà. Et en réalité, cette méthode de conservation s'inscrit dans des procédés qui, au fond, dès l'Antiquité, mais encore plus souvent au Moyen-Âge et au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on pourrait associer à chaque période des modes de conservation. Le salage du poisson dans une Europe chrétienne qui a besoin d'avoir du poisson régulièrement, la conservation dans la Grèce, par économie populaire et paysanne qui permet de se ménager des ressources, la conservation par la confiture qui justement consiste à cuire les fruits pour pouvoir les garder pendant un certain temps, avec toute une dissociation entre une économie populaire du conditionnement qui passe donc par des procédés techniques multiples, le fumage, le salage, la conservation dans la graisse, la conservation dans le sucre, l'enrobage. Et cette économie populaire, elle a au fond pour fonction de conserver, au sens propre, un certain nombre de ressources alimentaires dans des temps qui peuvent être des temps de pénurie et de rationnement. Donc, lorsque Appert, à son tour, invente une méthode de conservation des aliments, il prépare l'industrialisation de cette conservation et il change de dispositif technique.
On va écouter The Do A Mess Like This, un disque choisi par Thierry Dupin avec Olivier Bétard à la réalisation.
In me into one thing, a bold voice.
Service public sur France Inter, une émission vivante sur la conserve. Faut-il mettre en boîte la conserve ? Nous sommes en compagnie de Julien Coallier, qui est délégué général de la collective de la conserve, de Jean-Pierre Ouillot, qui est historien à l'université François Rabelais de Tours, et Olivier Drolet, qui est délégué général du syndicat national des fabricants de boîtes métalliques. Alors, pour fixer les idées de nos auditeurs, dans une boîte de conserve, on compte trois éléments de prix. Un tiers pour le contenu, un tiers pour le contenant, un tiers pour les éléments marketing, les étiquettes, etc. Ce qui signifie, Olivier Drolet, que l'objet conserve, la boîte de conserve, est malgré tout un objet qui coûte relativement cher.
C'est un élément qui paraît anodin aujourd'hui. Ça paraît très simple, très banal. En réalité, c'est d'une complexité technique importante. Vous avez plusieurs types de boîtes de conserve. Et de boîtes métalliques en général, puisque les canettes boissons ne sont pas des conserves, mais sont également incluses dans le périmètre des fabricants d'emballages métalliques. Et vous avez des techniques de fabrication extrêmement sophistiquées. Il faut noter que la France a été l'un des pays, le berceau de l'extension de la boîte métallique. Il y a un savoir-faire très important en France dans le domaine de la boîte métallique. Je ne reviens pas sur l'épisode Saint-Gobain, Carnot, etc., que vous avez tous connu. La France a un véritable savoir-faire dans ce domaine.
En quoi est-ce complexe une boîte de conserve ? Pourquoi cela requiert une certaine technicité ?
Eh bien, comme ça a été expliqué, la boîte de conserve permet de, c'est le cas de le dire, de conserver les aliments à température ambiante pendant des temps extrêmement longs. Vous avez des DLC, des dates limites de consommation, qui sont, grâce à la conserve, grâce aux techniques d'apertisation, qui permettent de déconnecter la production de la consommation, qui sont jamais complètement en phase. Donc ça permet de stocker des aliments, d'éviter soit des pénuries, soit des trop de production qui ne serait pas vendue sur les marchés. Ça permet de réguler les marchés. Donc il faut que la boîte soit parfaitement étanche. Et c'est là la difficulté, on en parlera peut-être tout à l'heure avec les changements de résine, que l'étanchéité dans la boîte soit assurée à 100%, quel que soit le contenu.
Aujourd'hui, la boîte de conserve, c'est évidemment une manière économique de se nourrir. Ça a toujours été le cas, Jean-Pierre Ouillot ?
Alors aujourd'hui, c'est effectivement une manière économique, mais ça n'a jamais été ce cas-là pour tout le 19e siècle et même encore tard jusqu'au milieu du 20e siècle. La conserve a d'abord été un produit de luxe, très cher, destiné à une clientèle aisée et qui trouvait dans ce produit une innovation qui pouvait être intéressante, mais qui gustativement n'était pas forcément au point. Et il a fallu attendre l'acculturation à la conserve par le biais de la diffusion des conserves à l'armée, donc à partir de 1872, et puis surtout pendant la Première Guerre mondiale, pour que l'on accepte, que l'on adopte la conserve de manière un peu plus généralisée.
Alors la boîte de petits pois, par exemple, ça valait cher ?
La boîte de petits pois, en 1890, c'est à peu près le tiers ou la moitié d'une journée d'ouvrier, c'est-à-dire que ça coûte 1,50 €.
Donc c'est évidemment
c'est un produit de luxe
hors de prix à l'époque et on voit à quel point ça s'est démocratisé. On va le voir également avec la boîte de sardines car nous allons avoir droit à un test de boîte de sardines. Puis plus tard, un test des raviolis en boîte qui ont fait notre jeunesse en colonie de vacances ou lorsqu'on campe. Isabelle est au téléphone à Montargis. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Isabelle.
Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Surtout merci pour vos émissions, que j'apprécie énormément.
Merci Isabelle.
Et je voulais moi demander, parce que j'ai cru entendre, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait des soucis avec les substances utilisées à l'intérieur de certaines boîtes de conserve, je ne pense pas toutes, tels que les soucis qu'il y a eu avec le bisphénol dans les biberons. Donc j'aurais aimé savoir d'où on en est et pourquoi, si effectivement il y a des choses toxiques, ça n'est pas, disons, immédiatement retiré de la production, ce qui aussi a mis le temps pour les biberons, parce que la chose économique, l'intérêt économique des fabricants passe toujours avant l'intérêt sanitaire et la santé des usagers dans tous les domaines. Donc, donc voilà, et, je voulais
évidemment
savoir ce qu'il en est, parce qu'il me semble avoir entendu cela.
Merci beaucoup Isabelle pour cette question et figurez-vous que nous sommes en ligne avec notre autre téléphone. Nous sommes en ligne avec Éric Oudot. Bonjour Éric Oudot.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au centre Toxalim, centre de recherche en toxicologie alimentaire à l'INRA de Toulouse. Et justement, vous travaillez sur les perturbateurs endocriniens, ces fameux bisphénol A, alors qui sont en fait la petite pellicule que l'on voit autour de la boîte de conserve. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce toxique de manger une boîte de conserve contenant des bisphénols A et nous faire le point sur la législation aujourd'hui en France ?
On va essayer de résumer cela d'une manière relativement simple. Il est vrai que le bisphénol A, c'est la brique de base, substance chimique qui sert à la constitution des résines époxy qui habillent les boîtes de conserve, que ce soit des boîtes alimentaires ou les canettes de boissons. On sait également que dans des cas précis de chauffage, c'est-à-dire au moment de la stérilisation, ou parce que l'aliment présente une acidité particulière, ce bisphénol A peut migrer depuis la boîte métallique vers l'aliment et venir ainsi le contaminer en amont de la chaîne de distribution pour le consommateur. Donc on est effectivement exposé à de faibles doses, j'insiste sur ce nom, faibles doses de bisphénol A dans notre alimentation au quotidien. C'est donc une exposition chronique à de faibles doses. Et ce produit a la particularité d'être un perturbateur endocrinien. Comprenez finalement qu'il a cette capacité à mimer l'activité de certaines hormones naturelles dans le corps humain, et en particulier les œstrogènes, voire pour partie à bloquer l'action d'une autre hormone qui est la testostérone. Et on s'inquiète effectivement au fur et à mesure de l'exposition de l'être humain, dans quelle mesure, comme ça a été constaté chez l'animal, l'exposition à ces doses de ce perturbateur endocrinien ne viendrait pas à perturber l'activité hormonale, le système hormonal du consommateur qui le consomme, avec un focus particulier sur la femme enceinte pour le bébé à naître, dans la descendance.
Voilà, donc on sait que le bisphénol A est un produit dont il faut se méfier, qu'il faut éviter de consommer. Aujourd'hui, il est interdit en France, il est interdit dans toutes les boîtes de conserve.
Il est interdit effectivement depuis le mois de janvier de cette année dans tous les contenants au contact des denrées alimentaires, et cela comprend bien entendu les boîtes de conserve et les canettes de boissons.
On l'a donc remplacé par quelque chose d'autre, puisque on ne peut pas, là je me tourne vers Julien Coilier qui est à côté de moi en studio, qui est délégué général de la collective de la conserve, on ne peut pas mettre directement les aliments en contact avec la paroi métallique d'une boîte de conserve.
Non, l'idée pour que la conservation soit la plus longue possible, et en fonction justement, comme le disait M. Oudot, de l'acidité des aliments, on met un vernis protecteur pour que la boîte reste étanche le plus longtemps possible.
Alors donc on a mis évidemment un autre vernis, et cet autre vernis, Éric Oudot, qu'est-ce qui me prouve qu'il n'est pas nocif ?
La plupart des vernis qui sont utilisés aujourd'hui, à la connaissance des chercheurs, parce que c'est difficile pour nous d'avoir ce type d'information, mais ce sont des résines polyester, ce sont des résines qui sont réalisées à la base d'isosorbide, qui est un dérivé de l'amidon de maïs, donc de source naturelle. Il est vrai que sur ces produits, on n'a pas encore de recul nécessaire pour avoir des études, des valeurs toxiques de référence qui nous permettent de faire une évaluation du risque.
Bah dis donc, c'est un peu inquiétant ce que vous me racontez là.
Ce n'est pas inquiétant dans le sens où, pour le moment, la plupart des résines dont j'ai eu connaissance ne sont pas à base de phénol, comme l'était le cas du bisphénol A. Sauf si d'autres analogues structuraux du bisphénol A, parce qu'il existe des petits copains, que sont le bisphénol S en l'occurrence, est amené éventuellement à rentrer dans la composition de ces nouvelles résines. Et ça, nous, en tant que chercheurs, on ne le sait pas encore.
Olivier Drolet, vous qui êtes délégué général du syndicat national des fabricants de boîtes métalliques, est-ce que vous travaillez là-dessus ? Quelles sont les réponses auxquelles vous songez pour rassurer les consommateurs ?
Alors, évidemment, nous avons travaillé sur le sujet, et bien en amont de cette loi, puisque cette loi a été votée le 24 décembre 2012, avec application au 1er janvier 2013, ce qui laissait quand même assez peu de temps aux industriels pour se retourner. Alors, heureusement, on avait anticipé ces choses-là, et on travaille sur ce sujet depuis un premier avis de la FDA, qui a été émis fin 2009, et qui a permis à l'industrie de rechercher des substituts. Alors, effectivement, comme l'a signalé M. Oudot, la plupart des résines utilisées sont des résines polyester, mais pas seulement. Il y a des résines vinyliques, acryliques qui sont utilisées, puisque la résine époxy qui reste utilisée en France dans les contenants Par exemple, les silos, les châteaux d'eau, les tuyaux d'eau utilisent les mêmes résines que dans les boîtes de conserve ou les canettes de boissons, il faut le savoir. Et ça, ce n'est pas touché par la loi. Donc, ces résines qui sont très étudiées pour leur sécurité, sous tous les angles, nous avons effectivement anticipé de plusieurs années à l'avance, sinon nous n'aurions jamais pu être prêts.
Nous avons un autre auditeur au standard, Jean-Charles, qui nous appelle de Rhône-Alpes.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Charles, nous écoutons votre question.
Eh ben, moi, c'était une remarque plutôt, c'était le fait
nous écoutons votre remarque.
Je ne parle pas de pour ces dernières années, ça s'est peut-être modifié, mais il y a une dizaine d'années en arrière, j'avais eu l'occasion de goûter plusieurs fois des boîtes d'eau gazeuse fort connues, je ne vais pas citer de marque, et cette eau, eh ben, elle avait un goût particulier, le fait d'être en boîte métallique.
Alors vous êtes peut-être tombé sur du Perrier au benzène à l'époque.
Ah, je sais pas, mais...
Non, c'est une blague, mais en fait, ce que vous êtes...
Acre, astringent, une fin de bouche très désagréable, et bon, j'ai essayé 2-3 fois, et j'ai vite arrêté l'expérience. Hein.
Ce que vous êtes en train de dire, effectivement, Jean-Charles, c'est que la boisson en canette, alors là, en l'occurrence, le Perrier ou une autre eau pétillante peut avoir un goût particulier. Qu'en pensez-vous, Olivier Drolet, vous qui représentez les fabricants de boîtes métalliques?
C'est justement une des caractéristiques des résines époxy, c'est justement respecter les propriétés organoleptiques des aliments et ne donner aucun goût. Alors effectivement, on a vu que c'est une difficulté très difficile puisque la marque que vous avez citée a connu des problèmes dans le passé avec des bouteilles en verre qui étaient recyclées, réutilisées, qui ont perdu le marché américain parce qu'on avait retrouvé des résidus à ce moment-là. C'est très complexe. Vous savez, c'était un sujet très complexe et très difficile et qui apporte toute notre, évidemment, toute notre attention.
Éric Oudot, vous voulez réagir? Vous êtes directeur de recherche au centre Toxalim de l'INRA.
Oui, tout à fait. C'est suite à la question de l'auditeur. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la plupart des gens dans notre population font aussi beaucoup, beaucoup d'amalgames sur la nature des plastiques alimentaires qui sont au contact des aliments. Il faut faire aussi très, très attention à bien spécifier que c'est dans certaines catégories, pas l'ensemble des bouteilles ou des contenants plastiques qui contiennent le bisphénol A ou d'autres perturbateurs endocriniens de cette nature. Et ça, on constate, nous, au fur et à mesure qu'on discute au salon de l'agriculture, par exemple, lorsque l'INRA est présent sur ses stands, qu'on discute avec les gens qu'ils ne sont pas du tout au courant des qualité de plastique alimentaire et de l'utilisation qu'ils peuvent en faire dans leur quotidien. Donc il y a un amalgame aussi auquel il faut faire attention parce que ça participe malheureusement à la crainte qu'a le consommateur de consommer du plastique alimentaire, d'utiliser du plastique alimentaire.
Et effectivement, cette crainte pourrait provoquer des dégâts, peut-être également des conséquences néfastes puisque la boîte de conserve demeure un produit recyclable. La boîte de conserve ne réclame pas d'énergie contrairement à la congélation pour conserver les aliments, comme nous le rappelle Francine. Et puis, je vous l'avais promis, il va y avoir des tests. Il va y avoir tout d'abord un premier test de sardines en boîte. Bonjour Lénora Krief.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes allé faire tester des sardines.
Et oui, les conserves de thon, maquereau et sardines font partie des produits les plus consommés par les Français. Et en un siècle, la plupart des conserveries traditionnelles ont fermé. Il n'en reste plus qu'une douzaine en Bretagne aujourd'hui. Alors pour mieux rendre compte des différences dans la qualité des produits proposés, je suis allée à la rencontre d'un spécialiste. Sylvain, poissonnier sur un marché parisien, a accepté de passer un petit test de sardines à l'aveugle.
Alors, une douzaine d'isigny et 2,50 € pour vous. Alors.
On est prêt? Je vous invite à goûter différentes sardines, donc marinées à l'huile d'olive, des sardines en conserve de différentes marques. Bah, je vous laisse choisir.
Bah, ouais, je vais goûter, au hasard, celle-là. Je vais goûter vers le ventre. Celles-ci sont un peu fades, hein.
Vous venez de goûter une sardine de la marque Carrefour, vendue au prix de 1,30 € les 135 grammes.
Ça fait cher, quoi, mais bon. 135 grammes, donc il doit y avoir 3 sardines dans le... C'est ça?
Ouais, 3 sardines.
Personnellement, je trouve que ça n'a pas de goût. Hein. Après, j'ai pas goûté les autres, mais moi, j'aime bien que ce soit relevé.
Alors, poursuivons.
Ça, à la limite, les gens mangent avec un peu du pain du beurre, donc ça va, pas beurre salé. Bon, on va goûter l'autre, alors. Celle-là, on sent plus... Elle est plus sec. Ça, je préférais l'autre, alors. Là, c'est quoi? Super U.
C'est saupiqué, c'est vendu 1,59 € la boîte de 100 grammes de filet de sardines et c'est sans arête.
L'autre a été plus tendre.
Vous préférez encore Carrefour à Saupiquet, hein ?
Ah, je préfère ni l'un ni l'autre, quoi. Non, je rigole.
Et celle-ci.
Celles-là sont meilleures. Ouais. Ah ouais, celle-là est bonne. Tiens, je vais la manger, tiens. Non, celles-là sont très bonnes. Je préfère, moi. Elles font plus dans la bouche, là.
C'est une célèbre conserverie, la Belle-Illoise. Donc, c'est une conserverie traditionnelle bretonne, et effectivement, qui est réputée pour son savoir-faire.
Et combien pour voir la boîte ?
Alors là, par contre, c'est 3,10€, la boîte de 69 grammes. Hein. Donc, on est au-dessus, voilà. Hein, en termes de prix.
Donc, je ne me suis pas trompé, alors. C'est un peu comme le jambon, vous allez mettre du jambon à la chaîne et puis du jambon travaillé. Là, ça se voit que les sardines, il y a une recette, il y a quelque chose, quoi. Voilà. Hein, c'est moins l'usine, on va dire. Moi, ici, tu sais, on en vend ici pour faire de manger cru, les gens.
Pour manger les sardines crues ?
On les fait en filet, ils les mangent crues ici. Il y a un filet d'huile, ils les mangent crues comme ça. Voilà, ça ressemblerait plus à ça qu'à ça.
À la Belle-Illoise que celle de Carrefour.
On va dire que ça restait un peu longtemps dans la boîte, quoi. Ça, c'est du travail de professionnel, ça, c'est du travail à la chaîne. Voilà, en gros, voilà. Excusez-moi, j'étais en train de déguster. Vous voulez déguster une petite sardine, monsieur ? Ça vous ferait plaisir ?
Elle adore ça.
Elle adore ça ? Ah bah tiens.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ?
Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense ? Alors je vais vous dire, déjà une confidence, je suis fils de conserveur.
Oula. Ah bah voilà, tiens, il va...
Attendez, j'arrive. Vous êtes fils de conserveur.
Oui, fils de conserveur au Maroc. Alors vous êtes, mon père faisait de la conserve de sardines, évidemment.
Ah bah alors là, je tombe juste. Hein.
Je ne sais pas si vous tombez juste, mais en tous les cas, celle-ci est remarquable.
Donc ça, c'est de la Belle-Illoise, vous devez connaître.
Ah, bien sûr, je connais la Belle-Illoise. Remarquable. Pour moi, des sardines, c'est un plat que j'aime et je suis capable d'en manger tous les jours. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez goûter juste celle d'à côté, là ?
Celle-là ?
Oui.
Pour moi, indiscutablement, celle-ci, parce qu'elle a le goût de la sardine.
Et l'autre ?
Celle-ci a un autre goût derrière, je ne sais pas quoi, oui. mais
c'est le goût de la conserve, là, mon ami.
Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas la vraie belle sardine à l'huile d'olive.
C'est la marque Saupiquet.
Ah oui, non, le Belle-Illoise est supérieur.
Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est ce petit goût, là, dont vous parlez ?
Ce petit goût. Je ne sais pas, il y a un arrière-goût.
Et vous pensez que c'est la conserve ?
Je ne suis pas certain. Ou la qualité de l'huile, ou la qualité du poisson. Et tous les autres, c'est tout Saupiquet, c'est pareil ?
Non, il y en a une autre, là, que vous pouvez goûter. Alors, celle-ci ?
Alors, 1, 2, 3. La Belle-Illoise, celle-ci.
La Carrefour. Vous venez de goûter une sardine. Carrefour à l'huile d'olive.
Eh ben, meilleur que la Saupiquet.
Meilleur Carrefour que Saupiquet.
J'aurais prise toute seule la Saupiquet, j'aurais trouvé peut-être bonne parce que j'aime les sardines, c'est vrai. Mais quand on prend ça derrière la Belle-Illoise, dur, dur.
Donc, on le voit, payer cher une boîte de conserve, ça peut valoir le coup. La boîte de conserve, Jean-Pierre Houillot, est demeurée un produit de luxe. On l'expliquait tout à l'heure, à l'origine, c'était quelque chose de luxueux. Vous évoquiez une demi-journée de travail pour une boîte de petits pois au 19e siècle. Et la sardine à l'huile, c'est vraiment l'aliment typique lié à l'histoire de la boîte de conserve.
Oui, c'est tout à fait caractéristique du développement de l'industrie de la conserve, parce que lorsque les premières conserveries se sont établies en Bretagne, donc pour mémoire, Joseph Collin a été le premier à développer une conserverie et Nantes est devenue la grande ville de la conservation de poissons, puis ensuite conservation de légumes. La sardine a été une sorte de filière à l'intérieur même de l'industrie de la conserve, en recherchant des procédés pour justement assurer une bonne maturation de la sardine. Et ça nous ramène à ces questions à la fois de goût, de démocratisation, d'utilisation de la boîte de conserve, et puis en même temps de risque. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, l'une des réticences qui était la plus fréquente était la crainte qu'il y avait à consommer des conserves dans la mesure où le sertissage des boîtes ou la fabrication des boîtes n'était pas parfaitement au point. Donc il y avait un certain nombre de risques sanitaires qui étaient connus ou qui se diffusaient assez facilement et qui ont concouru à limiter la consommation des boîtes de conserve. Alors, c'est lorsque, justement, il a fallu convaincre, par exemple, les soldats à l'armée et pendant la Première Guerre mondiale de consommer les sardines ou de consommer les boîtes de viande ou autres, qu'il a fallu s'assurer de l'innocuité de la boîte. Et donc, la recherche technique pour améliorer la boîte a été un élément très important auquel il faut adjoindre un autre facteur que les industriels ont porté, qui est de faire comprendre aussi à des consommateurs. Il y a, par exemple, dans les années 30, des manuels de fabrication de conserves domestiques pour insister auprès des consommateurs sur le danger à faire soi-même un certain nombre de conserves, dans la mesure où les récipients mal bouchés, mal conservés, pas suffisamment propres, pouvaient engendrer autant de maux qu'une boîte industrielle mal faite.
Et oui, puisqu'on parle en ce moment du bisphénol A, puisque c'est cela qui soucie les consommateurs aujourd'hui, mais il y a aussi une toxine, la toxine botulique, qui peut être contenue par les boîtes de conserve lorsque celles-ci sont mal fabriquées et qui, elle, est dangereuse immédiatement, Jean-Pierre Ouignot.
Alors, il y a effectivement un danger, mais danger qui a été en quelque sorte
maîtrisé
au fur et à mesure des progrès techniques comme l'étamage électrolytique de la boîte qui a permis de diminuer la quantité d'étain, l'utilisation des vernis que l'on évoquait tout à l'heure.
Ce que c'est avec Olivier Drolet qui représente ici le syndicat de fabrication des boîtes métalliques.
Non, comme ça a été très justement souligné, la sécurité des consommateurs est une préoccupation constante. Vous parliez des prix des boîtes, parce qu'évidemment, ça inclut l'aspect sécurité. Et on le voit pour toutes les recherches et développements qui ont été faits au niveau des nouveaux vernis alternatifs qui sont actuellement en place en France.
Sont-ils recyclables, vernis alternatifs ?
Comme l'a expliqué Julien Coyet tout à l'heure, la particularité de l'emballage métallique, c'est d'être recyclable à l'infini. Il faut savoir que le consommateur, quand il a une boîte de conserve ou une canette de boisson, quand il la met dans sa poubelle jaune, elle va être immédiatement reprise dans les centres de tri et tout ce qui est acier a la particularité d'être aimanté, donc repris immédiatement. Ça part dans des fours électriques. Qui vont faire fondre le métal à des températures très élevées qui éliminent toute substance chimique et toute bactérie qui pourrait rester. Donc c'est un produit totalement aseptisé, recyclable à l'infini.
On écoute Brigitte Bardot, contacte un produit recyclable à l'infini et tout de suite après, on a notre test de boîte de conserve de ravioli qui vous sera offert par Raphaël Mantoux qui a mangé des raviolis froides dans la boîte.
Météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. Par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. Contact. 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 Contact.
Service public sur France Inter, une émission consacrée à la conserve qu'il ne faut pas mettre en boîte parce qu'elle a de réelles vertus, des vertus nutritives. Des vertus nutritives à un prix somme toute modique. Et puis également, on vous l'a dit, la conserve est recyclable. Nous avons un auditeur, une auditrice au standard, Pascal, qui nous appelle de la région toulousaine. Nous vous écoutons, Pascal, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais dire qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi autant de gens buvaient des canettes, sachant qu'il y a de l'aluminium dans les canettes et que les boîtes de conserve, c'est pareil. Et il vaut mieux utiliser des boîtes de conserve en verre, en fait, des bocaux.
Oh, bah alors, il a faim peut-être.
Non, il veut jouer. Voilà.
Il veut jouer, bah c'est normal. En tout cas, il ne faut pas le laisser jouer avec des boîtes de conserve. Mais non, déjà, avec des enfants, bah, les bocaux, c'est plus dangereux. Merci pour cette question, Pascal. Et on la pose immédiatement à Olivier Drolet, qui représente ici les fabricants de boîtes de conserve, qui a donc une sorte d'intérêt dans cette question.
Oui, non, mais la question est tout à fait compréhensible. Je voudrais rassurer cette auditrice en lui précisant que l'aliment n'est pas en contact avec le métal. Et c'est justement pour ça qu'on parle de ces fameuses résines qui sont changées pour être en conformité avec la loi. Et donc, il n'y a pas de contact direct entre l'aliment et la matière, qu'elle soit aluminium ou acier. Bien évidemment, et il existe certains produits sur lesquels il n'y a pas de résine, parce que l'aliment a un pH neutre et ne va pas attaquer le métal. Par exemple, certaines compotes, par exemple le lait maternel, n'a pas besoin d'avoir de ces résines, et que les métaux qui sont utilisés, comme ça a été rappelé au cours des évolutions, au cours des années où cette conserve existe, sont soumis à des règlements très stricts en ce qui concerne le relargage de certaines substances qui pourraient être nocives. Et ça, bien évidemment, c'est contrôlé à plusieurs niveaux, français, européen et mondial.
Et puis la question de l'aluminium, qui est là aussi une question que beaucoup de nos auditeurs se posent. Qu'en est-il aujourd'hui avec les contenants aluminium? Parce qu'il faut rappeler que la conserve, ce peut être aussi une conserve en barquette aluminium. On trouve beaucoup de plats cuisinés qui sont produits de la sorte. Julien Coallier, vous qui êtes délégué général de la collective de la conserve.
Oui, alors effectivement, aujourd'hui on trouve la conserve sous différentes formes. Donc effectivement, la part a été belle à la boîte métal jusqu'à présent. Effectivement, c'est environ 90% des contenants vendus sous forme de conserve. Il y a un peu de bocaux, 7-8%, et un peu de barquette alu à la fin, 2-3%. Mais comme le disait Olivier Drolet, au niveau de la barquette alu, l'aliment ne va pas forcément être en contact direct avec le métal. Donc,
ça n'est pas dangereux, non, de manger. Pourquoi n'utilise-t-on pas plus les bocaux de verre dans ces conditions, Julien Coallier?
Alors, sur les bocaux de verre sont utilisés, mais on arrive aussi à une limite par rapport à tout ce qui peut être logistique. Le bocal, ça peut casser plus facilement. En termes de coût, comparativement à une boîte métal, le verre peut être un peu plus cher. Et aujourd'hui, du point de vue industriel, pour répondre aux demandes du consommateur d'avoir du goût à un juste prix, la boîte métal s'est imposée, et comme le disait M. Huillot, culturellement aussi.
Si je vous dis qu'il est 10h44, si je vous dis appétit, Panzani, vous fermez les yeux, c'est déjà le début du bonheur, ou presque, Raphaël Bantou, la boîte de raviolis froide que vous avez testée.
Bonjour Guillaume, oui, je vous la porte là ce matin.
C'est gentil.
Alors, dans les grands moments de paresse, les raviolis en boîte sortent parfois des placards des cuisines. Et c'est Alba Pezzone, napolitaine et professeure de cuisine italienne à Paris, qui a accepté de se prêter au test de ses conserves prêtes à l'emploi. Je la retrouve dans le restaurant italien Marco Valdo. J'y apporte 3 boîtes de raviolis de marques différentes. Leader Price, Zappetti et Panzani.
Vous ne refusez rien, vous. Hein.
Oui, oui. L'odeur va largement imprégner les murs du lieu. Ces 800 grammes de raviolis cuisinés ont coûté 5,77 €.
Vous le dites pour la Cour des comptes, c'est ça.
Voilà. Alba, la gastronome, se prête au jeu avec un enthousiasme limité. Vous le disiez, les raviolis sont froids. À première vue, les boîtes la surprennent. Le visuel ne lui met pas tout à fait l'eau à la bouche.
Mamma mia, anche lei italiana, mamma mia. Non, dammi una bustina così risputo, perché ça, ça va pas, ça je te le dis tout de suite.
Les raviolis, c'est italien. La conserve de raviolis, un peu moins italien.
On a sous les yeux des raviolis à la bolognaise. Elles sont en boîte.
Miam, miam.
Là, on a des raviolis, donc sauce tomate cuisinée. Il y a écrit pâte fraîche, préparée dans nos ateliers. C'est appétit.
Alors, ça vous inspire quoi déjà, ça, là? Je ne comprends pas très bien la mention pâte fraîche. Ça veut dire qu'il y a Mama Deria qui a fait les pâtes, je ne sais pas.
Okay. Alors, donc ça, c'est les appétits. Et donc, c'est sauce tomate cuisinée. Alors, sauce tomate cuisinée, on suppose quoi, par exemple, quand on dit sauce tomate cuisinée dans un plat italien?
Là aussi, c'est ambigu. Donc, c'est ma première fois pour les raviolis en boîte. Je redoute un peu la dégustation, mais on verra bien.
On va voir ce qui sort de la boîte. Ressentir avec le nez.
Alors là, vous êtes en train de sentir donc, la boîte de raviolis Leader Price.
Voilà. C'est une boîte de raviolis froid. Ça sent la tomate, légère acidité, un peu fort. Et on sent du fromage.
Mamma mia. Dammi una bustina di plastica, per piacere, come quelle dell'aereo, lo sai?
Qu'est-ce que vous dites?
Qu'elle me donne un sachet en plastique, parce que je ne vais pas les avaler. Hein. Tu m'excuseras, Raphaël, mais non posso.
Donc ça, c'est les raviolis à la bolognaise, le haut de gamme. On a les appétits sous les yeux.
On ne voit pas trop les raviolis parce qu'ils sont couverts par la sauce.
Ça me rappelle mes repas d'enfant à la cantine de l'école où on me servait une sauce tomate que j'aimais pas trop, dont j'aimais pas trop l'odeur.
Alors on va mettre ça au micro-ondes. Alors est-ce que vous feriez cuire des raviolis au micro-ondes?
Non, j'aurais plutôt pris une poêle.
Donc on sort les raviolis du micro-ondes.
Ça fume un peu, donc c'est bon.
Alors là, vous vous apprêtez à goûter lesquels?
Les Leader Price. Dégustation, je pique, ça casse. Il va falloir manger ces raviolis-là avec une cuillère. Quand on déguste du vin, même s'il est très bon, il est courant qu'on recrache le vin. Quand on déguste des raviolis, parfois il arrive qu'on les recrache.
Et donc là, vous avez recraché le ravioli.
Pas de goût. Les yeux fermés, je ne sais pas, je n'aurais pas su dire ce que c'était. Le seul ingrédient que j'identifie est la tomate. Donc là, on va déguster les appétits, c'est ça?
Les appétits, voilà.
Tout est assez mou. C'est un goût de tomate et un goût de bouillon cube. Si vous me demandez, Alba, mangerais-tu ça? Ma réponse serait non.
Alors, on va encore leur laisser une dernière chance à ces raviolis en boîte. Là, on a la marque donc Panzani. 1 euro de différence avec les raviolis Leader Price que vous venez de manger.
En effet, les trois les meilleurs. La viande a davantage le goût d'une viande assaisonnée. Maintenant, est-ce que je mangerai ça? Non. On fait des pâtes fraîches en Italie pour les gens qu'on aime. Ça n'a pas le goût de l'amour. C'est pas très sincère. Mais j'ai aussi quelque chose à vous raconter. J'ai rencontré un jour l'un des plus grands pâtissiers parisiens et il m'a raconté que jusqu'à ses 18 ans, il n'avait pratiquement mangé que des raviolis en boîte. Que sa mère n'aimait pas cuisiner. Manger parfois des raviolis en boîte vous amène à des sommets dans les métiers des arts de la table, des arts de la bouche.
Bon, il faut dire, Raphaël Mantoux, que c'était un peu perdu d'avance, donner quand même à une cuisinière italienne des raviolis en boîte à manger. On pouvait être à peu près sûr du résultat. En tout cas, Jean-Pierre Wignot, ça nous rappelle qu'il y a une longue tradition des plats mijotés, puisque l'apertisation, qui consiste à fabriquer donc des conserves en plongeant dans un autoclave et donc en chauffant les aliments, se prête très bien à l'utilisation et à la conservation de plats mijotés.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le développement de l'industrie de la conserve, lors de l'exposition universelle de 1878, avait été consacré un certain nombre de pôles de spécialisation régionale pour mettre en boîte des viandes, des volailles, des gibiers, des foie gras. Tout ceci s'insérait dans cette histoire longue que l'on évoquait de confit, de conservation par le fumage ou dans la graisse ou dans le sucre. Et petit à petit, ce qui était une préoccupation d'économie domestique, c'est-à-dire de pouvoir étaler dans le temps les réserves alimentaires dont on disposait, est devenu le support d'une tradition gustative et gastronomique régionale et a pu se diffuser parce que l'adéquation entre la conserve et les habitudes alimentaires a procédé du développement de la mobilité. On l'évoquait pour les soldats tout à l'heure, l'un des arguments de l'état-major est de considérer que la conserve, justement en boîte et non pas en verre, parce que ce serait trop lourd,
évidemment,
permet la mobilité des troupes et se détache de la cuisine. Et puis, dans les années 60, par exemple, tout le développement de la mobilité touristique avec l'automobile, avec le camping, avec le début d'un certain nombre de vacances organisées différemment, favorise cette utilisation.
Et puis, c'est pour ça que les mauvaises langues appellent les restaurants du Sud-Ouest tout en boîte, parce que le confit, le foie gras, tout ça, ça se marie très bien avec les boîtes de conserve. Un dernier auditeur au standard, Georges. Bonjour, Georges. Vous nous appelez de Mâcon et nous écoutons votre question.
Je voulais savoir pendant combien de temps on peut garder des conserves dans une cave, par exemple. J'ai eu des cadeaux, des confits de canard ou des cassoulets que je n'ai pas consommés depuis plusieurs années.
Et ben pourquoi ?
Parce que j'en avais pas envie.
Bon, parce qu'il n'y a pas à se forcer pour le cassoulet ou le confit. Ça passe tout seul, Georges. Mais enfin, on va quand même poser la question à nos invités. On va quand même leur demander combien de temps on peut conserver une boîte de conserve. Est-ce que la date limite de consommation est impérative?
En fait, il y a une DLUO qui va garantir donc une utilisation optimum. Donc, ça va garantir le goût qu'il va y avoir dans la conserve. Mais vos conserves, il suffit de regarder si elles sont intactes, si elles ne sont pas bombées. Et en gros, vous pouvez du coup consommer ces conserves. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous les avez dans votre cave, mais sur du confit, vous allez être sur une date d'au moins 5 ans, je pense, de conservation. Et
vraiment, si la conserve n'est pas bombée, on peut la consommer?
Alors, je précise, les DLUO sont justement pour éviter tout phénomène de boîtes qui pourraient bomber, comme c'était le cas avant, justement, d'utiliser ces fameuses résines époxy qui sont extrêmement résistantes. Donc, la DLUO implique qu'il n'y aura pas ce phénomène-là. Et il faut savoir qu'il y a des conserves qui sont millésimées, comme le vin. Vous avez des boîtes de conserve, notamment dans les sardines, vous avez des millésimes.
Mais alors vraiment, vous garantissez, parce que sinon, s'il y a des auditeurs malades, moi je vous les envoie. Hein.
Absolument, mais la DLUO est là justement pour, comme l'a rappelé...
Mais si on la dépasse?
Alors, c'est la date limite d'utilisation optimum. Il n'y a pas de problème de l'utiliser, simplement au-delà de cette DLUO, les qualités organoleptiques pourraient être légèrement altérées. Voilà.
Les qualités de la maladie qui pourraient être données par la boîte.
Ça, c'est une autre date qui est la date limite de consommation.
Et alors, cette date limite de consommation, parce que par exemple, moi je mange des yaourts dont la date limite de de consommation a été largement dépassée. Pour l'instant, je suis encore vivant.
Je
fais la même chose, Bertrand Vanier, le médiateur, en doute, mais ça, vous verrez avec l'aide des auditeurs. Mais est-ce que l'on peut dépasser la date limite de consommation d'une conserve?
La date limite de consommation est la date que le conserveur recommande de ne pas dépasser. Ça ne veut pas dire que dès le lendemain, vous allez avoir quelque chose. Hein. C'est simplement une date qui est fixée dans le temps. Vous avez, dans le domaine de la conserve, je rappelais les conserves, les sardines à l'huile, vous avez des sardines millésimées, vous avez des DLC de 10 ans. Donc vous voyez un peu la qualité, c'est pour ça qu'on parlait de la technicité de ces boîtes pour pouvoir conserver à température ambiante des produits pendant des durées très longues.
Un mot de conclusion sur la conserve, on le voit, Jean-Pierre Williot, celle-ci a encore de beaux jours devant elle et avec elle les historiens de la conserve et des modes de conservation alimentaire.
Le travail d'historien consiste nécessairement non pas à déterminer l'avenir, mais à essayer de démontrer comment l'expansion de l'innovation, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons dans l'équipe de recherche que je dirige à Tours, l'équipe alimentation, comment l'expansion de l'innovation se font, c'est-à-dire à la fois le dialogue entre la technique et son évolution et la réaction des consommateurs.
Un mot enfin sur l'avenir de la conserve tel que le voient les professionnels, Julien Coilier.
Alors l'innovation alimentaire, elle se voit pas, parce que la boîte, finalement, elle change pas beaucoup, mais c'est une innovation permanente, du point de vue nutritionnel, du point de vue du goût. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent du goût, et aujourd'hui...
On avait cherché, par exemple, des boîtes chauffantes, des boîtes qui permettaient de réchauffer le contenu sans avoir besoin d'utiliser des réchauds, et puis ça n'a pas vraiment pris.
Non, aujourd'hui, c'est par rapport à des réflexes de consommateurs et des habitudes alimentaires. Aujourd'hui, on préfère réchauffer dans une casserole. Mais aujourd'hui, effectivement, la boîte a encore de beaux jours devant elle.
Merci à tous les trois. Merci également à France 5 qui diffusera un documentaire dimanche prochain à 20h40, un documentaire de Marie-France Barrier sur le sujet « La boîte de conserve à toutes les sauces ». Et voici la sauce du médiateur.
Le rendez-vous du médiateur sur France Inter.
Bonjour Bertrand Vanier.
Bonjour Guillaume. Et c'est tout frais, ça n'est pas en conserve.
Vous n'êtes pas en conserve, vous avez reçu des auditeurs. Sur quel sujet ?
Eh bien Guillaume, je ne surprendrai personne en disant qu'entre 80 et 90% des messages et des courriels reçus depuis le 19 mars parlent de la grève qui perturbe les antennes de Radio France. Avant d'en venir aux commentaires des auditeurs pour ou contre, je voudrais citer une requête partagée par beaucoup, celui d'une meilleure information sur les raisons et le déroulement de cette grève. Les auditeurs veulent savoir et comprendre ce qu'il se passe et ils sont frustrés, même si en réalité, et c'est ma mémoire qui le dit, on n'a jamais autant parlé d'une grève à Radio France sur les antennes de Radio France. Quand il y a un mouvement à la SNCF, dans l'éducation nationale ou les hôpitaux, dit cet auditeur, vous nous faites entendre les positions de toutes les parties, y compris les usagers. Pourquoi ne le faites-vous pas aujourd'hui ? Je rappelle que l'ensemble des messages reçus ainsi que les textes publiés par les syndicats et la direction de Radio France sont sur le site du médiateur espacepublic.radiofrance.fr.
Alors comme je suis là pour vous embêter Bertrand Vanier, même si j'ai le plus profond respect pour le médiateur que vous êtes, ces auditeurs sont-ils pour ou contre la grève ?
Je vais répondre à côté. Ils sont d'abord pour la musique. Dans leur énorme majorité, les auditeurs trouvent fantastique ce qu'en bon français on appelle la playlist. Avec une réserve qui est en croissance, ils voudraient, comme le dit Evelyne, une bande musicale plus variée et qui ne tourne pas en boucle. Les playlists des stations sont sur le site du médiateur. Autre unanimité, c'est « Revenez ». De nombreux auditeurs disent « Nous avons tenté d'aller écouter ailleurs, c'est pas possible, revenez vite à l'antenne ». J'en viens maintenant à ceux qui commentent directement la grève. Plus de 1 sur 2 sont contre. Alors qu'il y a des élections et une catastrophe aérienne, faut-il attendre une troisième guerre mondiale pour que les émissions reprennent, écrit Gisèle. Difficile d'accepter un blocage presque complet qui ressemble à un combat d'arrière-garde dans une tour de nantis très protégée des perturbations du monde dans lequel je vis, renchérit Jean-Michel. Je suis fatigué de cette grève. La radio de service public est au service du public et non au seul service de ceux qui la font, affirme Philippe. Quant à Laurent, il trouve ce conflit d'un archaïsme total, très court de récré. Dernière réaction dans le camp des contre, celle de Julie. La grève est un droit inaliénable, mais 14 jours, ras-le-bol, marre d'être toujours prise en otage par ces minoritaires au sein de leur entreprise.
Alors donc ça c'est pour les contre. Bertrand, quels sont les arguments des auditeurs qui soutiennent les grévistes ? Et d'abord, combien sont-ils ?
Ils sont un peu moins de 3 sur 10, mais leur nombre augmente, le nombre de ceux qui soutiennent les grévistes. Je vous soutiens parce que je sais que vous ne faites pas cette grève de gaieté de cœur ou pour embêter les auditeurs, dit Maude. Ne vous excusez pas, ajoute Mado, parce que les programmes, on y tient avec la qualité que mérite le service public. Le CSA et Galet n'ont rien compris à la mission de service public et ils s'en fichent totalement. Quant aux quelques 15% restants, si vous faites bien vos comptes, ils parlaient uniquement la semaine dernière du président de Radio France, ainsi Jean-Paul, qui résume la tendance. « Vous n'ignorez pas, écrivait-il, que le reste à vivre d'une faction de plus en plus importante de la population française se rétrécit. Un investissement de 100 000 euros pour rénover un bureau est une gifle à tous ceux qui souffrent. » Ces messages dirigés contre le PDG de Radio France ont disparu et ils sont peu à peu remplacés par des questions sur le fonctionnement de la grève, combien de grévistes, qui vote, la prolongation ou l'arrêt du mouvement, etc., etc. Je veux dire qu'il est difficile de répondre précisément à ces questions. Les grévistes sont moins de 10%, mais quand on compte l'ensemble du personnel de Radio France et dans une société qui travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il y a rarement plus d'un tiers du personnel présent à un moment T. Quant au vote, il se déroule en Assemblée Générale. Elles réunissent chaque jour entre 300 et 400 personnes à la Maison de la Radio.
Merci Bertrand Vanier, merci pour le message du médiateur. On vous retrouve dans 15 jours. Bonjour Nagui.
Bonjour Guillaume.
Qui est-ce que vous mettez en boîte aujourd'hui?
et vivant en plus. Guillaume Gallienne est notre invité pour parler de toute sa carrière, de la Comédie Française et de Paddington dont il fait la voix off. Et Cella Sue sera en live, l'excellente chanteuse qui a déjà vendu 1 million de son disque. Et là, c'est un nouvel album qui sort. Voilà, vous savez tout.
Guillaume. Et bon, on va les apertiser dans la boîte. Wow. Et demain, dans Service Public, on parlera des villes de France où il fait le plus bon vivre. Où faut-il vivre? En France, il faut vivre, si vous voulez, à Montbéliard, où il est 11h, passé de 5 secondes, ainsi que sur France Inter.